Shavua Tov. Le thème que vous avez vu, ce qui est affiché, on va parler de l'éducation. On va essayer tout simplement un petit peu de bon sens. Dans l'éducation, il faut beaucoup de bon sens. On va essayer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'éducation? Tout le monde y veut des enfants réussis. Et on a raison. Et ça peut réussir. Comme parfois ça ne réussit pas trop. Parfois nos enfants ne sont pas comme on aurait voulu qu'ils sont. Des fois ils sont à 10% à côté de ce qu'on aurait voulu. Des fois ils sont 50% à côté. Il n'y a pas une plus grande joie d'une éducation réussie. Une éducation réussie, c'est le bonheur pour les parents. Et ce qui est encore plus important que le bonheur des parents, c'est la réussite de l'enfant. C'est un acquis pour toute la vie. Quand on est bien éduqué, on a la chance pour toute la vie de réussir. Si l'éducation laisse à désirer, ça peut avoir des conséquences pour toute la vie. Les enfants grandiront. S'il y a une lacune dans l'éducation, ça peut sortir plus tard dans la vie avec des problèmes dans leur travail ou dans leur mariage, ou dans l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants à leur tour. Alors évidemment, plus qu'on réussit l'éducation des enfants, plus on a vraiment fait la mitzvah de prouvou, et la mitzvah de mettre des enfants au monde. Mais évidemment, la mitzvah de prouvou, elle ne s'arrête pas une fois qu'on les a mis au monde. Il faut les accompagner. Il faut les élever. Il faut les guider. Il faut les accompagner des longues années. Qui doit les éduquer? Les parents, à l'école, les professeurs. Mais ce n'est pas exactement le même rôle. Les professeurs à l'école, ils font leur éducation, ce qui est dans leur cadre de faire, ce qu'ils peuvent faire. Ils le font bien ou ils le font moins bien. Et les parents, c'est à eux. Et quand on dit parents, c'est les deux parents, évidemment. Parfois, il y a des hommes qui laissent l'éducation à leurs femmes. Il y a des hommes qui disent « Je suis accaparé par mon travail. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. » Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Cette lacune peut coûter cher. Comme toutes les autres erreurs qu'on fait dans l'éducation, elles peuvent coûter cher, très très cher dans la personnalité de l'enfant. Il ne faut pas rater, ni pour la mère, ni pour le père. Parfois les grands-parents aussi peuvent aider, évidemment. Nos enfants sont éduqués par les parents, par les professeurs, par leurs copains aussi, par ce qu'ils voient dans la rue, tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils voient, tout ça, ça laisse des traces, des impressions. Ça forme l'esprit, ça forme leur personnalité. Si les influences sont bien, on a évidemment le droit d'espérer que l'enfant il sera bien éduqué et grandira bien. Si ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il vit, que ce sera dans la pensée, dans la logique, dans les émotions, dans les sentiments, s'il voit des choses, s'il subit des influences néfastes, ça peut laisser des traces. Alors il faut que les parents y mettent bien la tête dedans, qu'ils connaissent quelques règles fondamentales, mais en vrai, il est difficile de donner des règles fixes pour l'éducation, qu'on puisse appliquer pour tous les enfants, pour tous les âges, pour un chacun. Parce que l'éducation n'est pas une science comme elle est la mathématique. C'est une science compliquée, c'est une science humaine. Et l'être humain, il est composé par beaucoup de choses. Chaque famille est un monde. Chaque enfant, c'est un monde. Chaque génération, chaque ville, chaque synagogue, si je me permets de dire, chaque école, chaque chose est un cas à part. Même deux frères jumeaux, ils peuvent être éloignés un de l'autre à 60 millions de kilomètres. On va bien dans la Torah. Il y avait Yaakov et Esav, deux frères jumeaux. Ils étaient complètement différents. Et ils avaient besoin, en effet, d'une éducation différente. Ce qui peut être profitable pour l'un peut ne pas être profitable pour l'autre. Donc on ne peut pas toujours imiter. Voilà, cette famille, ce père, il se comportait comme ça, ça sortit bien. Pas forcément comme lui se comportait. Ça marchera pour monsieur tout le monde, pour chaque enfant. Dans la même famille, on peut trouver des enfants qui sont comme ça et des enfants qui sont comme ça. Les parents, ils doivent adapter leur comportement à ce que cet enfant a besoin. Ceci dit, bien qu'il n'y a pas des règles fixes, mais il y a quand même des règles adaptables qu'il faut adapter. Mais il y a des principes que ça vaut la peine de les connaître. Évidemment, ça dépend l'âge de l'enfant. Et il y a l'éducation dans le jeune âge. Après, quand ils sont plus grands, ils vont à l'école. Quand ils sont dans l'adolescence, quand ils grandissent, chaque âge, il a la façon comment il faut agir, comment il faut parler, comment il faut surveiller, comment il faut guider. Et globalement, il faut savoir dans l'éducation, disons qu'il y a trois parties qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut réfléchir ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de gens veulent éduquer leurs enfants, et ils font ce qu'il faut faire. Il y en a d'autres qui font rien. Et il y en a qui font le contraire. Parfois, avec le sentiment que je suis en train d'éduquer mon fils. Mais on fait tout le contraire. Avec la bonne pensée, on croit éduquer, guider, et on fait le contraire. On déroute l'enfant, parfois on le détruit. Les parents peuvent détruire leurs enfants. C'est un immense pouvoir que les parents ils ont. Ils peuvent construire comme ils peuvent détruire. Mais il ne faut pas s'imaginer des parents qui détruisent, qu'il s'agit des parents méchants. Il ne faut pas s'imaginer que les parents ils veulent détruire l'enfant. Non, les parents ne veulent pas détruire l'enfant. Mais il y en a qui le font sans le savoir. Parfois, ils ont le sentiment qu'ils éduquent. Et quand ça tourne parent, ils insistent encore plus et encore plus et détruisent de plus en plus. Pour ces parents, ce qu'on peut leur dire, soit qu'ils apprennent à éduquer les enfants correctement, ou cet enfant, en tout cas, il faut changer l'éducation, ou c'est mieux qu'ils éduquent pas du tout. Des fois, il n'y a rien à faire, il y a mieux. Des fois, l'enfant, il peut trouver le chemin tout seul. Ce qui est important, c'est qu'on ne le dérange pas. Il faut savoir quelles sont les choses positives. Quelles sont les choses indispensables pour que les enfants peuvent grandir bien. Il y a des choses qui sont pratiquement chez tous les couples importants. On peut le dire, ce sont des principes. Presque toujours, pratiquement toujours, c'est bien. De quoi il s'agit? Il s'agit de plusieurs points. Le point le plus important, disons, ou un des points les plus importants, disons le plus difficile. Le plus difficile de l'entendre même. Je ne parle pas d'appliquer. Peut-être le point le plus important pour éduquer nos enfants bien, c'est si on le veut ou on ne le veut pas. C'est une vieille vérité. C'est qu'une bonne éducation commence chez soi-même. Chez les parents. Rien, absolument rien, ne peut remplacer ce point. L'exemple personnel, la capacité des parents de chercher à s'améliorer eux-mêmes, de chercher eux-mêmes d'être bien éduqués, de se comporter bien, c'est indispensable. On ne peut pas faire un raccourci. Il existe des parents qui ne font pas attention à ça, ils ont quand même des enfants merveilleux. Il y a des miracles, c'est vrai. Ça dépend de la nature des enfants. Il y a des enfants qui ont une âme, une vie intérieure bien et ça va facilement. Et ils trouvent le bon chemin. Minashamayim. Des fois, on donne à des parents impossibles des enfants, ils sont merveilleux. C'est vrai. Il existe des choses qui nous échappent. Mais quand on n'a pas reçu cette chance inouïe d'avoir des enfants purs, droits, qu'il faut simplement faire attention de ne pas les abîmer, c'est tout, ça suffit. Si on n'a pas cette chance, et la majorité des gens n'ont pas forcément cette chance, et si on voit un enfant, ça tourne par an, il faut que les parents se remettent en question. Un des trois points, et souvent les trois points. Le premier point que le père se dit à lui-même, que la mère se dit à elle-même, est-ce que moi, je me comporte pas bien? Est-ce que moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond? Le deuxième point, est-ce que moi, avec ma femme, ensemble, ça tourne rond? Parce que une maison où le père et la mère ne s'entendent pas, c'est pas profitable pour une bonne éducation. Les parents, ils doivent s'entendre. Les parents, ils doivent s'aimer, s'aider, se respecter. Et si un enfant se tourne parent, les parents, ils doivent voir entre eux, est-ce que chez nous, il y a quelque chose, chez chacun seul, ou entre nous, est-ce que ça tourne parent? Et l'amélioration des parents, elle va débloquer la situation chez les enfants. Souvent, les parents, ils pensent, mon fils, ça tourne pas rond, il faut que je l'amène chez le psy. Ça peut être vrai. Oui, oui, bien sûr. Il y a des enfants qui ont besoin d'aide d'un psychologue. Oui. Si je ne me trompe pas, à 80%, les enfants qui ont besoin d'aide psychologique, c'est que les parents, ils ont besoin d'aide psychologique. Il faut faire une thérapie des parents. Et une fois qu'on règle ça, ça va tout seul. Un enfant, ça rentre dans l'ordre. Ça, c'est le deuxième point que les parents ils doivent savoir. Le troisième point, c'est à savoir, est-ce qu'on donne à nos enfants le cadre positif dans lequel ils pourront se développer correctement. Et ça, il faut détailler de quoi il s'agit. C'est quoi un bon cadre d'éducation? C'est quoi une bonne maison d'éducation? C'est quoi une famille apte à éduquer les enfants bien? C'est une maison, c'est une famille dans laquelle règne un esprit, une certaine mentalité qui règne, une atmosphère adaptée au bon développement des enfants. Si l'atmosphère à la maison elle est mauvaise, elle n'est pas adaptée à des enfants. Elle n'est peut-être pas adaptée pour des adultes non plus. Une maison qui tourne pas rond, et je ne parle pas seulement entre le père et la mère, disons que les parents ils s'entendent bien, mais le cadre qu'on donne aux enfants, ça ne suffit pas que les parents ils s'entendent, ou qu'un des deux pères ou la mère se soumet à l'autre. Il faut créer un cadre positif. C'est-à-dire quoi, un cadre positif? C'est un cadre où on parle correctement. C'est un cadre qui est plein d'espoir, où il n'y a pas de peur, où il y a des encouragements. Une maison où on développe la confiance. La confiance entre les parents et la confiance pour l'enfant. Qu'on dit aux enfants, et que ce sera des paroles justes, pas simplement le dire, qu'on les aime. On doit aimer les enfants. Et on doit leur dire qu'on les aime. Vous allez me dire, mais c'est des banalités ça. Mais c'est l'évidence même. Mais tous les parents, ils aiment leurs enfants. Ça, c'est dans la nature des choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit philosopher, qu'on doit acquérir. Ça vient tout seul. Ça, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que l'amour paternelle et maternelle, elle coule de source. Or, ça n'est pas juste. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que des parents ne sont pas capables vraiment d'aimer leurs enfants du fait qu'ils sont accaparés par d'autres choses. Disons, par exemple, ils sont occupés de s'aimer soi-même. Ils ont leurs soucis. Ils n'ont pas reçu eux-mêmes l'amour de leurs parents. Les gens, ils peuvent être perturbés, les parents, ils peuvent être perturbés de façon que cet amour naturel qui se trouve naturellement dans la nature des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et tout le monde, il a évidemment cette nature d'aimer les enfants, mais que cet amour, malheureusement, n'est pas capable de s'exprimer. Elle est bloquée. Il y a des parents qui sont bloqués. Un père qui lui-même n'a pas été aimé par son père, ou qui a été frappé, ou qui a été humilié, et il recherche lui-même de trouver quelque chose pour lui, où il peut chercher sa parnassa, il a besoin d'argent, il n'arrive pas à joindre le deux bouts, ou d'autres préoccupations qui accaparent sa tête de façon qu'il néglige les choses basiques de transmettre à ses enfants cet amour que les enfants ils ont besoin, ce soutien comme une plante, un arbre qu'on plante quand il est tout fin, il a besoin de tuteur, sinon il va pousser à gauche et à droite. Les enfants, ils ont besoin d'un tuteur. Et la nature a fait de la sorte, normalement, que ce sont les parents, le tuteur de l'enfant. Mais il faut que le tuteur, il sera disponible de donner aux enfants ce qu'ils ont besoin. Un père et une mère doivent être à l'écoute. Ils doivent consacrer du temps. Ils doivent consacrer de la gentillesse. Ils doivent créer un cadre épanoui, un cadre joyeux, un cadre de bonheur, un cadre où l'enfant il a envie de vivre dedans. Quand les enfants ils arrivent à la maison, ils doivent sentir un bonheur d'être dans cette famille et dans cette maison et entourés par ce père et par cette mère. Ce bonheur donnera aux enfants la base de pouvoir se développer correctement et que les éventuelles guidances de leurs parents ou conseils ou ordres, ils seront acceptés de bon cœur et que les enfants y marcheront droit pour faire plaisir à leurs parents et parce que les enfants y comprennent qu'ils sont importants et que les parents, ça leur touche au cœur, leur bonheur, le bonheur de leurs enfants. Et que les parents peuvent être des gens qui donnent à leurs enfants. Mais si jamais les parents sont accaparés par des problèmes, par une nervosité, par la colère, par la rancune, par chercher, ils sont ailleurs. Ça existe plus peut-être chez le père que chez la mère. Des fois le père il arrive tard à la maison et même quand il arrive, il est ailleurs. Il ne s'occupe pas tellement des enfants, ça va aller tout seul. Et les enfants ne savent même pas si papa, il me connaît, il m'aime, il est intéressé en moi. Ça c'est encore dans le cas 10 ans où le père ne s'occupe pas. Mais parfois le père il s'occupe, mais il s'occupe, comme on dit en bon français, à verlan. Il veut éduquer l'enfant, mais l'éducation du père est basée sur « je dois l'éduquer, je dois lui interdire, je dois le réprimander, je dois le corriger ». Mais corriger un enfant, réprimander, il y a une connotation négative qui peut être positive quand c'est dans un cadre positif. Dans un cadre où les enfants aiment beaucoup les parents parce que c'est agréable, parce qu'ils sont aimés des parents, et que les enfants ils sont convaincus, ils ont tous les jours la preuve que mes parents ils pensent à moi et qu'ils me donnent des encouragements qui me font confiance. Et après, le père ou la mère font de temps en temps une réprimande. Une réprimande qui est dite sur un ton de douceur et pas brute, et mesurée et ciblée et entourée par beaucoup d'encouragement. Alors là, la réprimande, elle peut être positive. Mais des parents qui croient que plus que je fais des réprimandes, plus que je l'éduque, ou qui font des réprimandes sans créer d'abord un cadre de confiance. Lancer une parole dure, lancer une critique par une personne que je ne suis pas convaincu qu'il m'aime, ça touche pas le cible. Ça touche le contraire parfois. Il peut se remplir de haine. Il veut quoi celui-là de moi? Mais il me fait quoi pour qu'il se permette de me réprimander? Oui, ça tu peux dire pour un voisin à la synagogue, un voisin dans la rue, dans le métro. Mais je ne vais quand même pas détester mon père parce qu'il m'a réprimandé. Oui, ça c'est ce que les parents pensent. Ce n'est pas forcément ce que les enfants pensent. Les enfants, ils peuvent penser que mon père me déteste. Oui. Et ils ont des preuves parfois. Bien sûr, le père ne déteste pas les enfants, mais ils peuvent manquer de l'amour des parents. Ils peuvent vivre dans un autre monde, pas dans le monde de leur enfant. Il faut que les parents y rentrent dans le monde de leur enfant. Et qu'il faut qu'ils savent comment ça fonctionne. Je me permets ici de commenter quelque chose qu'on a lu ce matin dans la Torah. La Torah nous raconte, tout le monde connaît la paracha, la vente de Yosef et ses frères. Non, l'histoire est connue. Je veux simplement prendre un point. Le texte, il dit Israël Ahav et Yosef Mikol Banav ki ben zekunim ulo va'asalo ketonet pasim. Yaakov, il aimait Yosef plus que tous les autres. Et il lui a fabriqué une tunique spécial, chair en soie colorée, quelque chose de royal. Mais les frères, ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas du tout apprécié. Vaïs neuoto, ils l'ont détesté. Vaïrou echav ki oto ahav avihem ikol banav, ikol echav, vaïs neuoto. Les enfants, ils ont vu que Yosef, il est plus aimé que tout le monde. Ils l'ont mal pris. Bon, est-ce que le père, il s'est rendu compte qu'il y a ici un malentendu chez les enfants, que les enfants, ils ne s'entendent pas? Est-ce que le père, il était au courant? Évidemment. Évidemment, il était au courant. Le texte dit « Vayigar bo aviv » Quand Yosef est venu chez ses frères, écoutez donc mes rêves, vos gerbes se sont prosternées devant moi, les étoiles se prosternent devant moi. Voyez qu'Arboa vive, le père, il a crié sur Yosef, mais arrête déjà tes histoires. Pourquoi il a crié? Pas parce qu'il pense que c'est faux ce que Yosef dit, parce qu'Aviv Shamarit Adavar, le père, dans son fort intérieur, il était sûr que c'est vrai ce que Yosef rêve. Mais il voulait qu'il se tait parce qu'il a vu que ça provoque un balagan chez les frères. Les frères le détestent, ils vont le massacrer un jour. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la logique? Quand un père, il voit que les frères ne supportent pas la préférence de Yosef, et la préférence la plus visible, c'était cette fameuse tunique. Alors enlève-lui la tunique. Pourquoi tu les gardes sur Yosef? Et quand ils ont vendu Yosef, ils ont pris cette tunique, ils l'ont trempée dans le sang. Ils ont envoyé chez Yaakov et ils ont dit, Hakerna haketonet bin chahi imlo, s'il te plaît papa, reconnais que c'est bien ta tunique qui a provoqué l'excitation de cette bête sauvage. Si la bête sauvage ce sont ses frères ou une autre bête sauvage, ça, on ne va pas parler de ça. Mais papa, je voudrais que tu reconnais que c'est bien cette tunique qui a provoqué quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a répondu le père? Vayakira vayomer ketonet beni, je sais, c'est la tunique de mon fils. Oui, oui. C'est la tunique qui a provoqué une catastrophe. Mais alors Yaakov, il était au courant, enlève la tunique de ton fils. Non, j'enlève pas. Il le garde. Tu marches avec une tunique et personne d'autre. Et les frères, ils veulent manger vivant. Non, tu gardes la tunique. Qu'est-ce que c'est comme éducation? Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer ici, Yaakov? Ici, le pshat, il est, et c'est quelque chose de très, très important pour nous tous. Le texte, il dit que Yosef se fait donc vendre. Donc, il est descendu en Égypte. Il est en Égypte, il se fait acheter par un monsieur Potiphar. Non. Et il gère la maison de M. Potiphar. Il arrive le fameux jour que tout le monde il part à l'église. Il ne reste personne à la maison que Mme Potiphar et Yosef. Vaïka ayom, vayavo Yosef, ratot melachto. Ve'en ish sham me'anche abayit sham babayit. Aucun homme, les hommes de la maison se trouvaient à la maison, il était seul. Patit feseo bebikdo. Alors elle a attrapé l'habit de Yosef. Elle dit, fais une bêtise avec moi. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il enlève cet habit et il se sauve. Il sort dans la rue. Et il n'a pas fauté. Alors, la question elle est, comment il a réussi, cette femme qui le saoulait tous les jours, et à la fin elle a attrapé. Et comment ça se fait qu'il a réussi à se sauver, il n'a pas péché? Alors la Gemara nous dit que le texte il est un peu bizarre. Le texte il dit Ve'en ish me'an shehabayit sham babayit. Aucun homme des hommes de la maison était dans cette maison. C'est compliqué ce verset. Le verset il aurait pu dire Ve'en ish babayit. Il n'y avait aucun homme dans la maison. À part Yosef et cette femme. Pourquoi le texte il dit il n'y avait aucun homme des hommes de la maison dans cette maison? La Gemara déduit d'ici il n'y avait pas d'homme de cette maison dans la maison, mais il y a un homme pas de cette maison, il était lui dans la maison. Quel homme était dans la maison? Yaakov. Quand Yosef il se fait attraper par Madame Potiphar, Yosef, il a vu son père devant lui, le visage de son père. Bien sûr, son père était à 1000 kilomètres loin, mais il a vu son père à la fenêtre. Et Yosef, il a dit, « Papa, il est là devant moi. Je ne vais quand même pas faire cette bêtise. Devant papa, je vais pécher. Papa, il va regarder sur moi. » Non. Je ne fais pas une chose comme ça. Il a pris ses clics et les claques et il est parti. Voilà ce que la Gemara explique dans Gemara Sota. Il y avait un homme qui a regardé la scène, mais il n'était pas de la maison de Potiphar, c'était Yaakov. La question qui se pose ici, comment Yosef il a fait de voir son père? Comment ça se fait que le visage de son père a apparu devant ses yeux? C'est parce que Yosef était très attaché à son père, parce qu'il aimait son père. Et pourquoi il aimait son père? Parce que son père l'aimait. Il y avait un lien de folie entre Yaakov et Yosef. Eile toldot Yaakov Yosef. Voici l'histoire de Yaakov, c'est Yosef. Le Midrash explique, il y avait 22 points dans la vie de Yaakov et 22 points dans la vie de Yosef qui étaient les mêmes, qui avaient vécu aucun autre de ses enfants. Avec Yosef, Yaakov, il avait 22 points. Rashi raconte 2 points. Rashi dit que Yaakov, il a senti, il a pressenti que le destin de Yosef va ressembler à son destin. Comme lui, Yaakov était détesté par son frère Esav, comme ça Yosef sera détesté par ses frères. Comme lui, Yaakov était obligé de se sauver de son frère pour ne pas se faire tuer, comme ça le destin de Yosef sera que les frères voudront le tuer. Le père, il a senti toute cette histoire. Comme Yosef, il sera éloigné de la maison. Comme lui, Yaakov était obligé de fuir la maison de ses parents et rester seul chez Laban des longues années. Il a senti que Yosef aussi sera des longues années éloigné seul. Alors Yaakov, il a dit, ce fils, il est très fragile. Déjà sa mère, elle est morte quand il était tout petit. Il était orphelin de mère. Et il était très délicat, Yosef. Et il sera seul, pas avec la famille. Et il est beau. Et les gens, ils vont lui courir derrière pour faire des bêtises avec lui. Il aura beaucoup des épreuves à faire dans sa vie. Et ce garçon-là, je dois voir qu'il sera tzaddique. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Mais Israël a rave. Et Yosef, il a aimé très fortement. Pas seulement il a aimé, il a exprimé cet amour. Il lui a fait une chemise royale. Voilà, tu es mon prince, mon fils. Tu es un prince. Pour moi, tu es un prince. Mes papas, mes frères, ils sont pleins de haine. Garde cette chemise. Toi, tu es le roi. Tu es un prince, tu es mon fils. Il savait que c'est une catastrophe vis-à-vis des frères, mais ce n'est pas grave. Toi, Yosef, tu es très aimé chez moi. Je compte sur toi. Cette histoire veut nous montrer quelque chose de fondamental. Si tu veux que tes enfants, quand ils grandissent, qu'ils pourront maîtriser leurs tentations quand des choses difficiles risquent d'arriver, et comme une Madame Potiphar ou d'autres choses risquent de vouloir abattre ce Yosef, ou qu'il sera à la prison injustement accusé. On peut faire une dépression quand on est à la prison. Prison en Égypte, c'est pas très joyeux. On peut tout de suite déprimer. Mais non, il a réussi. Il est rentré à la prison, il a tout réussi. Il était chez Potiphar, il a tout réussi. Il était chaque jour, on l'a saoulé, Madame Potiphar, et il est sorti avec brio. Parce que mon père me fait confiance. Et le jour et le moment très dangereux que madame l'attrape pour le faire pécher, il voit son père et il ne faute pas. Ça, c'est une règle à appliquer à des enfants fragiles, à des enfants qui peuvent avoir des tentations. Et à une autre époque, c'est le cas pratiquement pour monsieur tout le monde. Dans notre époque, il y a beaucoup de tentations. Les parents, ils doivent encourager leurs enfants. Ils doivent être disponibles, ils doivent les aimer. Il faut le montrer qu'on les aime et que je compte sur toi. Toute parole qui va dans le contresens aura des conséquences dans le contresens. Un père qui dit « Je ne te considère pas comme bien, je pense que tu es faible, je ne te fais pas confiance » ou qui disent des paroles plus violentes que ça, « T'en vaux rien, tu ne seras jamais quelqu'un, de toute façon t'es nul. » Quoi? Ça c'est le bulletin que tu as à la maison. Ah, ils ont honte de toi. Ça c'est de l'éducation. Tu crois que comme ça tu éduques ton fils? Mais il faut bien que je lui dise qu'il est nul en classe. Il ne se rend pas compte. Il faut qu'il fasse un effort. Mais arrête d'être nul. Mais ça fait ces trois fois. Tu es toujours comme ça toute l'année. Tu es nul. Tu fous rien. Hein? Tu es paresseux que tu es. Ce sont des paroles qui sortent naturelles de la bouche d'un père et ils ont une puissance de poison, une puissance destructive pour désorganiser, pour détruire la confiance de l'enfant. Pour des années, les enfants qui entendent des paroles comme ça des parents, ça détruit l'enfant. C'est exactement le contraire de ce que Yaakov est en train de faire avec Yosef. Et ce sont des paroles. Israël, Ahav et Yosef, Mikol Banav, il faut activement encourager les enfants. Et il faut bien sûr faire attention de ne pas faire le contraire. Mieux vaut de rien dire que de dire des paroles qui agressent. Les enfants, ils ont des sentiments très très fins. Ils captent chaque parole qu'on dit, même quand ils sont petits. Ils jugent les parents, ils écoutent, et même quand tu as le sentiment qu'ils ne t'écoutent pas, ils écoutent très bien la tonalité, ils jugent l'ambiance à la maison. Et le père qui dit à son fils tu es nul, le fils il croit que je suis nul. Et quelqu'un qui pense qu'il est nul, eh ben il peut devenir nul, ouais. Il peut être nul. Ça ce sont des règles fondamentales dans l'éducation. Sans ça, rien ne commence. Il faut que la maison soit une maison de bonheur. Et ce n'est pas facile, parce qu'on peut avoir des problèmes. Essayer de faire un maximum que les enfants ils ne seront pas affectés par les problèmes que les parents ils peuvent avoir. C'est sûr qu'un père qui trime difficilement et qui a une vie difficile et tous les soucis qui nous accaparent, ou pas seulement qui accaparent les parents. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. On peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a 50 ans, 100 ans aussi, il y avait tellement beaucoup des accidents et des malades et des... Aujourd'hui, Barminan, on entend, celui-là, il est malade, et celui-là, et des orphelins, et plein de choses dans le monde qui tournent par an. Est-ce que ça a été toujours comme ça, ou il y a aujourd'hui quelque chose de spécial? Il y en a qui disent, ça a été toujours comme ça. Il n'y a pas plus des accidents aujourd'hui. Seulement, autrefois, on n'était pas tellement au courant, parce que les médias et les... On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé de l'autre bout du monde. On savait ce qui s'est passé dans le village. Et un petit village, il y a un accident dans 6 mois. Mais aujourd'hui, tous les jours, on entend des 10 accidents. Tout ça, ça crée une atmosphère d'instabilité, de peur et de manque de confiance. Toutes sortes d'idées négatives, toutes sortes d'idées aussi de « je dois m'occuper de moi-même et je ne peux pas donner aux autres », ce qui est le contraire d'une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est une éducation qu'on peut apprendre aux enfants d'être des donateurs, d'être large, ne pas être égoïste. Si les parents eux-mêmes ne sont pas égoïstes, on a, étant donné que j'ai dit quelque chose en fumant, je vais dire encore quelque chose dans la paracha de cette semaine. Comment s'appelle la paracha cette semaine? Hein? Non, elle est dépassée, ça c'est déjà bien. Maintenant elle s'appelle Miketz. Je vais dire un petit mot sur Miketz. Et c'est très important à savoir. À la fin de Parshat Miketz, tout le monde connaît l'histoire. Que Yosef, il a pris la coupe dans laquelle il a bu pendant le repas. Il a fait mettre dans le sac de Binyamin. On se rappelle l'histoire? Hein, on connaît l'histoire. Il l'a mis dans le sac de Binyamin. Et après, il a couru derrière le fils de Yosef. Il a dit, pourquoi vous avez volé la coupe de mon maître? Ils ont dit, nous, voler la coupe de votre maître? Mais qu'est-ce que vous racontez? Déjà, l'argent qu'on a trouvé dans notre sac qui était par erreur, on vous a ramené. Nous, on va voler de l'or, de l'argent. Alors, il a dit, mettez le sac par terre, on va fouiller. Ils ont fouillé. Ils ont trouvé la coupe chez Binyamin. Bah, catastrophe. Bon, ils sont revenus à la maison chez Yosef. Yosef leur a dit, pourquoi vous m'avez volé la coupe? Ils auraient dû savoir qu'il n'a fait si, il n'a fait si, je suis comme moi, il y a un homme comme moi, je sais deviner, je viens deviner que c'est vous que vous m'avez volé. Bon, voilà ce qui est marqué dans le fromage. Un peu plus loin dans la Torah, c'est marqué qu'Avon Yaakov est devenu les morts. Il a donné des bénédictions. Et quelle bénédiction a reçu Binyamin? Binyamin, non, pas Yaakov, Moshe il a dit. Binyamin Amar Yedid Hashem, c'est Moshe qui a dit ça. Binyamin Yedid Hashem, c'est l'ami de Dieu. Yedid Hashem, comment ça continue? Yishkon la bête chalav, chofef alav kolayom, ou ben ketifav shachem. Dieu a fait résider sa shchina dans la parcelle qui appartient à Binyamin. Yerushalayim était partagé en deux, le sud était de la tribu de Yehuda, le nord était la tribu de Binyamin, et le Mizbeach, là on fait les korbanot, c'était dans la tribu de Binyamin. Alors, pourquoi c'est Binyamin? Yedid Hashem, c'est l'ami de Dieu. Pourquoi Binyamin est plus ami de Dieu que tous les frères? Parce que tous les frères, ils étaient dans une bagarre. Le seul qui n'a pas participé dans cette bagarre, c'était Binyamin. Et ceux qui ne se bagarrent pas avec les gens, Dieu l'aime. « Kol, je vois, chabriot, nocha, amen, roi, chamakom, nocha, amen, Binyamin n'avait pas de bagarre. Alors Dieu l'aimait. Très bien. Mais le Midrash ajoute quelque chose. Uben keteif avshachen. Pourquoi Dieu a fait résider sa shrina sur Binyamin? Ben keteif av entre ses épaules. Shachen, la shrina était entre ses épaules. Le Midrash raconte. Quand ils ont trouvé la coupe chez Binyamin, les frères, ils ont regardé sur Binyamin, ils ont dit, « Toi, tu as volé la coupe, voleur, fils de voleuse. Ta mère, Rachel, a volé les trafim de son père. Toi, tel père, tel fils, telle mère, tel fils, tu es aussi voleur comme ta mère. » Et ils l'ont massacré. Ils l'ont frappé sur les épaules, ils voulaient le tuer. Fou que tu es, qu'est-ce que tu nous mets, dans quelle situation tu nous mets? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ils l'ont massacré. Grâce à ces coups que Binyamin a reçus ce moment-là, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis la shrina chez lui. Comme ça, il dit la Midrash. Quel est le sens? Mais Binyamin, il a encaissé des coups, injustement, hein, d'accord. Mais en quoi ça donne une raison d'avoir la Mizbéar chez lui? D'accord, il a reçu des coups, c'est pas agréable de recevoir des coups, mais bon, et alors? Bon, il a reçu des coups. C'est pour ça que tu as le misbéach chez toi. Mais le sens, il est comme ça. Le texte, il dit dans la parasha qu'on va lire la semaine prochaine, que Yosef, il a invité ses frères quand ils ont descendu la deuxième fois, il les a invités pour un repas. Et le texte, il dit que les Mitzrayim étaient sur la table, ses frères à une autre table, et Yosef seul. Comme ça, il dit le texte. Et après, il a installé ses frères, Bechor ki Bechorato, Hatzair ki Tzirato, Yitmu Ish Elachim. Il a installé le grand à sa place et le petit à sa place, et les frères se sont regardés, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef, Rashi raconte la Gemara, il a pris la coupe et il a tapé. Mais il dit, oh, la coupe, il me dévoile un secret. Toi, tu t'appelles Rouven. Tu es le fils aîné. Tu viens ici. Oui, il sait que je suis le fils aîné. Il tape la coupe. Ah, la coupe me dit, tu t'appelles Shimon. Tu es le numéro 2. Ah, la coupe me dit que toi, avec ton frère Lévi, vous avez tué toute une ville. Mais d'où il connaît les secrets? Il a fait un théâtre, ce Yosef. Ils étaient épatés, les frères, ils tremblaient. Mais d'où il connaît? Et il racontait sur chaque enfant. Il les a placés, c'est marqué dans le texte. Après, il a dit, toi, Binyamin, tu es le plus jeune, mais tu n'as pas de mère. Moi aussi, je n'ai pas de mère. Tu viens à côté de moi. Tu t'assois ici. Après, ils ont bu du vin, il dit le texte. C'est quoi tout ce cinéma? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yosef? Il voulait monter un coup pour mettre la coupe dans la sac de ses frères. Mais les frères, ils étaient à table, lui était loin, ils ne peuvent pas voler la coupe. Il a mis Binyamin à côté de lui. Et il a donné à boire du vin, lui il a bu, pour faire soi-disant, j'étais sous, à ce moment-là, vous avez volé. Binyamin, il a volé pour pouvoir faire accuser les frères qui venaient à voler, qui étaient à côté de moi. Mais il y avait une autre chose. Yosef, il voulait mettre la coupe chez Binyamin. Mais si je mets la coupe chez Binyamin, ils vont le trouver. Mais les frères peuvent le tuer, peuvent le massacrer, Binyamin. Il n'a pas mérité. Qu'est-ce que ce pauvre Binyamin a mérité? Mais je suis obligé de le faire pour rendre mes frères Bitchouva. Pendant le repas, ils ont bu du vin. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a fait à Binyamin. Je suis Yosef. Je suis Yosef. Il a soufflé à Binyamin. Tu sais, je suis Yosef. Et Binyamin dit, je comprends maintenant tout. Je comprends qu'est-ce qu'il joue ce monsieur avec nous. Après, il a soufflé à Binyamin. Je vais mettre la coupe dans ton sac. Et Binyamin, il a capté. Je comprends qu'est-ce qu'il veut jouer. Il veut me mettre pour m'accuser, pour voir si Yehuda il fait un joli discours, s'ils vont me sauver ou pas. Ah, c'est Yosef, il a un plan terrible. Mais il a mis au courant Binyamin parce que toi, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ils peuvent te massacrer. Tu es prêt que je le joue? Et Binyamin lui dit, c'est bon, je suis d'accord. Il se sacrifiait pour ses frères. Il a dit, pour les frères, face de Chouva, moi, je suis prêt à me donner. Je me mets en danger de mort. Et quand ils ont enlevé le sac, ils ont trouvé chez lui, avant qu'ils ont trouvé les frères, ils ont dit, chez celui qui en trouve la coupe, qu'il meure. Comme ça, les frères, ils ont dit. Ils ont maudit celui qui en trouve la coupe chez lui. Ils ont maudit Binyamin sans savoir. Et quand Yaakov, il a dit à Laban, chez celui qui en trouve tes dieux, il meurt. Comme il se trouvait chez Rachel, et Rachel, elle est morte. Les 10 enfants, ils ont dit sur Binyamin, ils ont dit, ce qu'on trouve la coupe chez lui, qu'il meurt. Et la tribu de Binyamin était à 99% massacrée quand ils ont rentré en Israël. Le frère, ils ont massacré, puis là, je me dis, il y avait une histoire. Ils ont voulu effacer la tribu de Binyamin. 99% de Binyamin sont morts. 600 personnes, ils ont pu se sauver. Ça, c'était la malédiction que les frères, ils ont donnée. Binyamin était d'accord. Yosef, il veut rendre mes frères Bichouva, je suis prêt à donner ma vie. C'est pour ça que le Mishkan était chez lui. Le Mizbeach était chez lui, comme Yitzhak il était prêt à mourir sur le Mizbeach pour Hachem. Binyamin était prêt à mourir pour que ses frères rentrent font Tshuva. Et c'est pour ça Hachem il dit d'Hachem, c'est la vie de Dieu. D'ailleurs, quand les frères sont revenus chez Yosef, Yosef il a dit Nachesh, Yenachesh, Ishacher Kamoni. Vous n'avez pas su qu'un homme comme moi s'est deviné un homme comme moi. Pourquoi il a dit Nachesh, Yenachesh, deux fois? Deviner. Pourquoi il dit deux fois? On peut dire une fois, deviner. Le Midrash raconte que Yosef il a dit, je devine avec ma coupe que vous avez pris un homme proche de vous et vous l'avez jeté chez les serpents. Nachesh, Yanachesh. Je devine qu'un de vous, de votre famille, vous avez mis dans un trou de serpent. Et les frères sont devenus blancs, ils tremblaient. Ils connaissent le plus grand secret. Et Yosef, il a dit, les frères, ils ont dit, qui en a mis dans un trou et du serpent? Il a dit, Ish Asher Kamoni, un homme qui me ressemble très fort. Regardez-moi bien. Un homme qui me ressemble très fort, vous avez mis dedans. Les frères, ils l'ont regardé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il ressemble à Yosef? Ils n'ont pas pigé. Ils se sont mis dans la tête que Yosef ne sera pas le roi. Et Yosef leur dit, mais il me ressemble ce que vous avez mis dans le trou. Et ils n'ont rien pigé. Quel est le moussard askel de cette histoire? Ça, c'est l'éducation que Yaakov il a donnée à Yosef et à Binyamin. Il a donné une éducation. Je vous aime. Et quand Yaakov il a dit, vous Yosef et Binyamin, vous êtes mes chéris. Et Binyamin, il était prêt à donner sa vie pour ses frères. Éduquer, c'est éduquer à Messirut Nefesh. Les Hashmonaïm, ils ont donné leur vie pour le peuple juif, pour la Torah, pour que la Torah sera dans le peuple juif. C'est pour ça que cette fête s'appelle Chanukah, Chinuch, éducation. L'éducation du peuple juif passe par des gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour la bonne cause. Des parents qui sont égoïstes, on prive les enfants de se développer correctement. Les parents, ils doivent donner de leur temps, de leur argent, ils doivent donner de leurs sentiments, ils doivent se dépasser et apprendre automatiquement, les enfants vont imiter les parents. Yosef et Binyamin, ils se sont dépassés entièrement. Ça, c'était l'intention du père. Et il a réussi son éducation. Il y avait un balagan dans sa famille. Un balagan qui ne dépendait pas de lui, ça dépendait de Laban avec Rachel, Léa. C'est une histoire compliquée, pourquoi Yaakov était pris contre sa volonté dans une maison tendue. Mais il a dit, il faut que je sauve cette situation. C'est de cette façon que je sauve ces gens. Et tout est bien, qu'il finit bien, ils ont fait la paix à la fin. Ça, c'est quelques petites règles qu'il faut que les parents savent, qu'on réfléchit. Ce sont des règles qui sont applicables pratiquement toujours. Après, il y a d'autres choses à savoir, évidemment, dans l'éducation. Chaque enfant, chaque situation, chaque famille vit ses problèmes, vit ses difficultés. Il faut s'adapter. Qu'est-ce que je fais avec ce fils? Qu'est-ce que je fais avec cette fille? Comment agir? Comment la guider? Mais la règle dit, créer à la maison une atmosphère de bonté, de générosité, de bonne éducation des parents, de paix entre les parents, une vision positive, une atmosphère agréable, que les enfants se sentent bien, et après ils acceptent ce que les parents ils disent. Après, ça coule de source que les enfants ils vont faire plaisir aux parents. Et si les parents sont des juifs religieux et ils veulent que leurs enfants ils soient religieux, ça coule de source que les enfants ils voudront marcher dans le chemin de la Torah. On n'a même pas besoin de leur dire trop. Ils savent. Yosef, il savait que papa c'est un homme religieux, il veut que je sois tzadik. Il me fait confiance, il croit en moi, je ne veux pas le décevoir. Je ne vais pas faire une bêtise, papa il est présent. Il pense à son père parce que son père pensait à lui. Quand tu penses fortement, tu es attaché à ton fils, tu l'aimes vraiment, lui t'aime aussi. Et il fera ta volonté même quand il est à 1000 kilomètres loin. Il sait que tu es proche de lui. Ça s'appelle une éducation réussie. Bon, maintenant je vous donne la parole à vous, si vous voulez faire une remarque. Vous demandez comment ça se fait qu'il ne savait pas que son fils est vivant. Mais il avait perdu le roi Hakodesh. Le texte il dit Vaït Abel, il était triste. Et la Gemara nous dit que la tristesse chasse le contact avec Hachem. Pour être en contact avec Hachem, il faut être joyeux. Comme il était triste, eh bien le fil était coupé. Alors il n'a pas su. Maintenant Dieu aurait pu lui quand même faire savoir, mais Dieu ne voulait pas lui faire savoir. Parce que les enfants, ils ont fait un chérème, ils ont mis Dieu dans le chérème aussi. Ils ont dit que personne n'a le droit de raconter à papa. Et Yitzhak Avinu le savait aussi, la vérité, il ne voulait pas aller contre la volonté des frères. Les frères, ils ont décidé qu'il faut que ça reste un secret. Et bien, Yitzhak, il a respecté, il n'a pas raconté son fils. Même Dieu, il a dit, je respecte la volonté des enfants. C'était costaud, ces frères. Ils faisaient à leur tête, ils se croyaient plus intelligents que leur père. Mais bon, ça, c'est encore une autre chose.
Que leur père puisse mourir réaliste, mais il est plus. Ça m'échappe.
Ouais.
C'est une bonne question. C'est un des grands mystères de la Torah. Comment les frères, ils ont voulu le tuer au début même. Comment ça se fait qu'ils ont agi comme ça? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Pour répondre à cette question, moi je vais me contenter avec un petit peu pour diminuer de 10% ou 20% votre question. Le peuple juif est un peuple qui a reçu la Torah en Sinaï. Et Dieu nous a demandé de rester fidèles. Et bon, Hachem, ça fait 3300 ans, on a reçu la Torah, on est toujours fidèles. Mais dans cette longue histoire, beaucoup de clowns sont venus. Beaucoup de faux prophètes sont venus. Beaucoup de gourous qui essayaient de nous saouler, croyaient, nous sommes investis par Dieu, il faut que vous acceptiez ce que nous disons. Des millions de gens, on les a saoulés avec ces... Combien de gens au Moyen-Âge, vous lisez un peu les histoires de la en Espagne, en Portugal, comment ça s'appelle, l'Inquisition, qu'on demandait aux Juifs de croire à ces histoires. Alors, un des caractères des Juifs, pour rester juif, c'est de ne pas tomber dans la main d'un gourou qui veut nous envoûter. Les Juifs, ils ont un sentiment... On ne veut pas se faire rouler par un quelqu'un. Quand Yosef il est venu, il dit, vous savez frérot, je vous ai vu, je me suis vu, des gerbes, on est tous en train de faire des gerbes. Et vous savez, vos 11 gerbes se sont prosternées devant moi, ma gerbe se levait, vous êtes tous prosternés à mes pieds. Ah bon, hein, quel manipulateur celui-là. Il veut qu'on le renvoie à Maloch Timloch Aleinu et Masol Timsol Bano. Tu veux être le roi, tu veux qu'on te reconnaisse comme roi ou tu veux peut-être un dictateur. Mais j'ai vu le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternent. Ah, le soleil se prosterne devant toi, il est bon celui-là, un mégalo. Il se prend pour le centre du monde, papa et maman et les enfants, tous se prosternent à toi, toi le petit, toi. Jamais de la vie. Les frères, ils ont dit, nous on doit être vigilants, il ne faut pas se laisser rouler. Combien de gens ils sont venus chez nous, ils ont rêvé, je suis prophète, vous devez accepter, sinon c'est grave. Et les Juifs, ils ont rigolé sur tous ces gens-là. Et ils ont développé cette critique indispensable pour un juif. Pour rester juif, il faut être très critique contre les manipulateurs. Et ça, les frères, ils ont bien développé. Sauf pour Yosef, ils se sont trompés. Parce que, le destin, il était qu'il sera lui le roi. Ils ont dépassé dans leur critique. Mais d'être critique, être violent contre quelqu'un qui veut nous manipuler, c'est une bonne chose, sauf cette fois-ci, ils ont dépassé la dose. C'est vrai. Ils n'ont pas tenu compte du chagrin du Père. Ils ont dit, nous, on ne se laisse pas faire que quelqu'un nous tourne la tête. Et cette décision des frères, elle nous a aidés, mon prochain, de rester juifs, on ne s'est pas fait rouler par d'autres. Mais ça ne répond pas entièrement à votre question.
Oui. J'entends pas.
Si
Eh bien, il faut croire que rien n'est irrattrapable. Avec l'effort, on peut... Il y a des gens qu'un effort pense qu'ils sont irrécupérables. On a une histoire dans la Torah. Esav, c'est un grand voyou. Et le texte il dit, mais Yitzhak Ahav et Esav Kitzaïd Bepiv. Yitzhak il aimait Esav. Kitzaïd Bepiv parce qu'il lui a apporté du gibier. Vous connaissez l'histoire. Comment ça se fait que Yitzhak il aime ce voyou? Un grand gangster. Et il s'appelle bien un voyou. Et Yitzhak il aime. Parce qu'il lui donne du gibier. Mais c'est quoi comme corruption, ça? Parce que le type, il te fait un bon sandwich par jour. C'est pour ça que tu aimes l'homme le plus corrompu du monde. À quoi t'anime cette histoire? C'est parce que Yitzhak, il savait qu'Esav, c'est un pauvre type. Il est né poilu comme un manteau de poil. Comme ça dit le texte. Kader et Tsehar. Et il s'avait été rouge comme une tomate et il était poilu comme un ours. En plus, il avait des dents. Il est né avec une barbe, comme un adulte. Un enfant de 3 mois qui est par terre, qui a une barbe et rouge comme un poilu. Il était au gagne, tout le monde a rigolé de lui. Personne ne pouvait supporter ce gars. Alors il était toute la journée en train de chasser des animaux, il se sentit mieux. Yitzhak, il savait qu'Esav, c'est un homme difficile, c'est un garçon difficile. Je veux le récupérer. Qu'il vient m'apporter à manger, je vais lui montrer que je l'aime. Le gibier, c'est pas parce qu'il avait mangé du gibier, il aimait. Il aimait, il essayait de montrer que tu es important chez moi, Esav. Viens, apporte-moi quoi manger. C'est une façon de rentrer en contact avec son fils. Son fils, tous les jours, est venu chez Yitzhak. Papa, il a servi. Et Yitzhak, il a dit, je veux lui montrer que j'aime. Qu'est-ce qu'il a gagné? En tout cas, qu'est-ce qu'il essayait de gagner? Que la haine que Esav, naturellement, il a contre les gens et contre son frère Yaakov qui a réussi. Yaakov, il est de nature, tout de suite, il était allé étudier, chacham, sadik, kadosh. Esav, il est grossier. Mais il est né comme ça, grossier. Il peut être jaloux, il peut tuer son frère. Alors son père, il dit, je t'aime beaucoup, viens, c'est toi qui vas me faire le manger. Et tous les jours, Esav, il avait un rendez-vous avec son père pour essayer de le récupérer. Maintenant, est-ce qu'il a gagné, Yitzhak? Est-ce qu'il a gagné? Oh, qu'est-ce qu'il a gagné? Quand Yaakov et Esav, ils ont rencontré, Yaakov, il tremblait de quoi? De se faire tuer par Esav, il tremblait de tuer Esav. Pourquoi il ne voulait pas tuer Esav? Parce que d'Esav vont sortir des grandes sadikim. Dans la Gemara, on raconte Rabbi Meir, il descendait Esav. Et beaucoup de Rabbi Akiva et beaucoup de tzadikim, il sortait Esav. Il a investi après sa sortie des grandes choses quand même. Même sa tête, il est dans la Maharata Machpela, la tête d'Esav. Même chez Esav, on pouvait récupérer. Qu'est-ce que je veux dire? À Kadosh Baruch Hu, il a créé les gens. Des fois, on fait une erreur dans l'éducation. Et les enfants, ils partent face seulement cacahuètes. Mais, souvent, ils reviennent après. Si Ben Emet, rien ne casse définitivement. Avec des tfilotes, avec des ishtadlouts, souvent, les enfants, après, ils reviennent. Ils passent une époque difficile. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu des gens qui font teshuvah? Des gens que vraiment personne n'aurait pensé qu'ils vont faire teshuvah. On voit des choses extraordinaires. Avoir de la patience. Des fois, les enfants, ils reviennent, même si on croit qu'on a raté. Des fois, ben, on a fait des erreurs. Après, les enfants, ils reviennent quand même. Rien n'est cassé définitivement. Ça semble des fois, Yaakov, il a pleuré 22 ans, il croyait que c'est la Ered el Beni Avel Sheola, et à la fin, tout est bien qui finit bien à la fin, ça s'est développé autrement. J'aime un peu envoyer un héros Tchouba, il y a beaucoup de gens, ils font Tchouba.
D'accord, on va faire un bas pour les forts samedi soir après un gros Shabbat.